L'actualité des Alpes du Sud, Sisteron, Digne-les-Bains-Castellane, Seine-les-Alpes, Barcelonnette, plusieurs communes bases alpines sont contraintes d'annuler les feux d'artifice du 14 juillet.
Le risque de feux de forêt est trop important. Un arrêté préfectoral de fin juin oblige les municipalités à prendre cette décision à contre-cœur. La sécheresse s'aggrave dans les Alpes d'Haute-Provence. 32 communes sont en alerte renforcée, 59 en alerte, 107 en vigilance. Des restrictions d'usage sont en place pour économiser l'eau.
Un homme en carton pendu au magasin Orange à Gap, l'image voulait choquer.
Choqué, interpellé alors que 3 employés de la société de télécommunications ont remis fin à leur jour depuis le début de l'année. La CGT FAPT estime qu'Orange maltraite ses salariés et réclame la fin des restructurations.
Gap se lance dans la méthanisation.
2 méthaniseurs pourraient voir le jour d'ici 3 ans dans la capitale douce, l'un pour l'abattoir, l'autre pour les éleveurs et les habitants. L'objectif est ambitieux, produire environ 11 gigawattheures par an de biométhane, soit la consommation de 2750 logements performants au gaz. Manosque et Château-Arnoux-Saint-Auban entrent aussi dans la boucle de la méthanisation.
Et puis l'actualité sport de ce mercredi, c'est bien sûr le Tour de France.
Il revient dans les Hautes-Alpes, il revient au col du Granon après 36 ans d'absence dans ce lieu mythique pour la Grande Boucle. Côté météo, c'est plein soleil.
Oui, temps très ensoleillé avec seulement quelques petits développements nuageux l'après-midi, un petit peu plus nombreux à proximité de l'Italie. Les températures sur nos 2 départements, les maxis de 29 jusqu'à 35 degrés. À la une de l'actualité de ce mercredi, c'est tout d'abord la situation de sécheresse qui s'aggrave dans les Alpes de Haute-Provence.
32 communes désormais en alerte renforcée, 59 en alerte, 107 en vigilance, 8 cours d'eau sont déficitaires, l'As, la Bléone, le Colostre, le Jabron, le Largue, le Lauzon, le Sas, le Vençon. Les bassins versants du Calavon, de la Nesque et du Buège sont en alerte renforcée. Conséquence, il y a des limitations d'usage interdits d'irriguer et d'arroser les pelouses, les espaces verts ou les zones sportives entre 9h et 19h. Interdit de remplir les piscines également ou de laver son véhicule en dehors des stations de lavage. On doit réduire également de 40% les prélèvements d'eau pour l'usage personnel ou pour les entreprises et les agriculteurs. Les communes concernées sont à retrouver sur alpe1.com. Une situation de sécheresse qui va perturber la fête nationale du 14 juillet. Le risque de feux de forêt est trop important. Du coup, certaines communes sont contraintes d'annuler les feux d'artifice traditionnels. Digne-les-Bains, Sisteron, Castellane, Barcelonnette, Seine-les-Alpes. D'autres pourraient prendre cette même décision pour être en conformité avec un arrêté préfectoral du 22 juin. Il interdit le tir de feux d'artifice si la limite du rayon de retombée est située à moins de 200 mètres des zones boisées. Pas de dérogation accordée. Et si la retombée est supérieure à 200 mètres, l'autorisation sera étudiée au cas par cas. Par contre, sachez que la ville de Manosque maintient, elle, ses feux d'artifice. Du côté des Hautes-Alpes, pas d'annulation en perspective puisqu'il n'y a pas d'arrêté préfectoral en vigueur.
Un homme en carton, chemise cravate pendue à la façade du magasin Orange à Gap. L'image voulait choquer pour interpeller.
Il représentait un salarié d'Orange ayant mis fin à ses jours. Depuis le début de l'année, 3 se sont suicidés en France, dont 1 à Draguignan. L'homme s'est pendu le 25 mai dernier sur son lieu de travail alors qu'il était en arrêt maladie. Un choc pour ses collègues, une inquiétude pour les syndicats, celle de voir ressurgir la vague de suicides de 2008-2009 où 35 salariés de France Télécom s'étaient donné la mort. Un préavis de grève nationale touchait l'entreprise ce mardi, y compris à Gap. Pour Philippe Assaillante, représentant de la CGT FAPT des Hautes-Alpes, Orange maltraite ses salariés. Il pointe une stratégie d'entreprise causant trop de souffrance.
Il y a déjà les réorganisations incessantes, il y a aussi la perte de sens du travail. Aujourd'hui, un technicien qui ne peut plus faire son métier parce que la qualité aujourd'hui, elle est moins importante que la quantité et que c'est un métier qui est sous-traité à 80% avec toutes les difficultés que ça peut amener. Et du coup, il y a des salariés qui sont en réelle souffrance de ne pas retrouver de sens au travail et de ne pas pouvoir faire un travail de qualité. Les salariés sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle et aujourd'hui, par exemple, sur les nombreuses fermetures de boutiques, je vais citer les boutiques, mais c'est pas les uns autres, hein. Il y a des salariés aujourd'hui qui sont, c'est la technique du burn-out, quoi. Donc ils sont tellement aujourd'hui à bout qu'ils sont presque contents que leur outil de travail ferme parce que ça va les sauver, quoi.
Selon la CGT, 7 autres personnes auraient tenté de mettre fin à leur jour depuis le début de l'année. Le syndicat demande un arrêt des réorganisations, mais aussi des recrutements. Il espère également une gestion de l'entreprise qui place l'humain au centre de sa politique.
Quant à lui, il dit non à la privatisation de l'eau sur la communauté de communes Jabron-Lure-Vençon-Durance.
C'est le collectif L'eau pour tous qui appelle au rassemblement lundi prochain à 17h devant la salle polyvalente de Salignac, au moment même où les élus seront amenés à se prononcer quant à cette question. Les mobilisés exigent le report de cette décision pour pouvoir laisser le temps d'études complémentaires. Ils estiment qu'une gestion publique permet de conserver un prix du mètre cube raisonnable en dehors de toute logique de rentabilité. Le collectif s'appuie sur d'autres communes comme Sisteron, Digne-les-Bains ou Gap dans les Alpes du Sud qui ont fait le choix de repasser en gestion publique.
Gap qui justement fait aussi le choix de la méthanisation pour son avenir.
Un projet de transition écologique autour de deux unités de méthanisation. Pour rappel, il s'agit d'un processus de fermentation de matières organiques qui vont produire du biogaz une fois épuré et odorisé. Il peut être injecté directement dans le réseau de gaz. Gap espère une mise en fonctionnement d'ici 3 ans de 2 méthaniseurs. Les études de faisabilité sont en cours avec des conclusions attendues pour l'automne. Mais le premier devrait permettre de rentabiliser une partie des déchets de l'abattoir. Le second sera dédié aux effluents d'élevage et aux biodéchets des Gapensais. C'est autour de ce dernier qu'une convention entre la mairie, la chambre d'agriculture et GRDF a été signée hier pour 1 an. Une convention qui doit notamment permettre d'accompagner les agriculteurs face aux enjeux énergétiques de demain. Jean-Pierre Martin, 4e adjoint au maire en charge de la transition énergétique.
L'objet de la convention est de sensibiliser les agriculteurs sur cette opération de méthanisation, de les informer sur le digestat qui pourrait être produit afin de valoriser encore leur exploitation. Et donc c'est dans cette optique que nous travaillons et que nous avons déjà programmé un certain nombre de rencontres avec les agriculteurs de la pairie gapensaise. Ce sont les communes d'Avançon, Montgardin, Rambaud, La Bâtie-Neuve, La Bâtie-Vieille et Gap, avec lesquels, dès le mois de septembre, nous allons travailler. Puis après, dans une deuxième phase, on travaillera avec d'autres agriculteurs de la périphérie du Gapensé. Avec GRDF, nous allons leur apporter tout notre soutien pour pouvoir avancer dans ce dossier, puisque notre objectif est d'injecter sur le réseau de GRDF une quantité importante de gaz. Et les études et les mois qui viennent vont permettre d'avancer dans cet objectif.
L'objectif est ambitieux, produire environ 11 gigawattheures par an de biométhane, soit la consommation de 2750 logements performants au gaz, un investissement estimé entre 5 et 7 millions d'euros. Au niveau régional, on dénombre aujourd'hui 6 centres de méthanisation, bientôt 7 d'ici la fin de l'année. 40 autres devraient sortir de terre avant 2028, 2 donc à Gap, ainsi que 2 autres dans les Alpes d'Haute-Provence, à Manosque et à Château-Arnoux, Saint-Auban.
En bref, un drôle d'animal s'est installé à la piscine de Fort-Calquier.
Une tortue bleue entièrement fabriquée en plastique recyclé. Gaïa, c'est son nom, elle vient recycler les bouteilles en plastique. Une collecte qui permettra de créer les décorations de Noël de la ville dans une matière éco-responsable appelée Reciprint.
Alpes 1 Sport.
Gagnon et Granon en altitude sur le Tour de France.
Le col du Granon a acquis ses lettres de noblesse dans l'histoire de la Grande Boucle, lui qui a été consacré plus haut sommet de l'épreuve pendant 25 ans à la suite de sa seule arrivée en 1986, jusqu'à ce qu'un autre col haut alpin ne le détrône, c'était en 2011 et c'était le col du Galibier. Le Granon est donc de retour sur le devant de la scène après 36 ans d'absence. Ses 11 km 300 à 9,2% vont permettre de voir ce mercredi soir plus clair et surtout réaliser une vraie sélection entre ceux qui peuvent encore espérer gagner le Tour et ceux qui devront voir leur ambition à la baisse. Christophe Lourenceau.
Après les pavés, la super planche des belles filles et 2 étapes alpestres, le Tour de France 2022 rentre dans une autre dimension ce mercredi avec l'étape 11 entre Albertville et le col du Granon, 151,7 km de haute montagne, avec notamment l'enchaînement Galibier-Granon qui ne manquera pas de faire mal aux jambes du peloton. Ce n'est pas Eduardo Chozas qui dira le contraire, lui qui est encore aujourd'hui le seul à avoir levé les bras en haut des 2413 mètres d'altitude du col du Granon. L'Espagnol a été même invité par le département des Hautes-Alpes pour marquer cette arrivée mythique. Un département qui ne cache pas son attachement à la plus grande course cycliste au monde, car comme le déclare le président Jean-Marie Bernard, le passage du Tour de France est à chaque fois l'histoire des Hautes-Alpes qui s'écrit, l'histoire du département à coup sûr, mais aussi celle de la Grande Boucle tout simplement, car le col du Granon restera à jamais le moment où Bernard Hinault a perdu en 1986 son maillot jaune à la faveur de l'Américain et coéquipier Greg LeMond, une passation de pouvoir symbolisée le lendemain au sommet de l'Alpe d'Huez, où les deux coureurs sont arrivés main dans la main. Coïncidence, je ne pense pas. Les coureurs de cette édition 2022 suivront exactement leur trace ce jeudi, jour de fête nationale entre Briançon et ses 21 lacets de légende.
Une journée, un vrai paradis pour les amoureux du cyclisme, Christophe, mais qui pourrait vite virer à l'enfer pour certains usagers avec de nombreuses restrictions de circulation.
Avec Saint-Chaffré en centre névralgique de cette journée de perturbation, de nombreuses routes sont fermées ce mercredi. La RD 1091 jusqu'au col de Lautaret de 13h à 19h, ainsi que la route du Granon, bien entendu, depuis ce mardi 20h jusqu'à ce mercredi 22h. L'accès au col sera également réglementé depuis le rond-point sud de 11h à 19h et depuis le rond-point nord de 13h à 19h. Inévitablement, avec autant de restrictions de circulation, se garer est tout aussi difficile. En effet, la quasi-totalité des parkings de la commune est occupée par l'organisation du tour, à l'exception de certaines aires de stationnement à Chantemerle. C'est pourquoi des parkings éphémères seront mis en place ce mardi à 8h seulement à la Gérarde, au Pontet et au stade de foot de Monnetier-les-Bains. Une navette gratuite sera alors disponible sur ce dernier parking pour assurer la liaison jusqu'à Chantemerle de 8h à midi, mais aussi dans le sens inverse, de 19h à 22h. Et pour être complet, un bus payant circule toute la journée de 7h à 19h entre Briançon et Chantoiseau.
Et pour garantir la préservation du site du Granon, le dispositif d'arrivée est extrêmement restreint. Tout se passe donc autour de la mairie de Saint-Chaffré. Le village sera le cœur battant de cette étape avec une tribune de 264 places, un écran géant, la présence d'un commentateur, trois buvettes et deux points info de l'office de tourisme.
Johan Zarco en préparation dans les Alpes de Haute-Provence.
Le canois de 32 ans, actuellement 3e du championnat du monde de vitesse moto et de passage à Manosque, il y effectue une session intensive d'entraînement sur le circuit de la famille Bell après la cité de Giono. Le tricolore poursuivra sa préparation, cette fois physique, du côté de Lubaï et de Barcelonnette avant un retour en compétition avec le Grand Prix de Silverstone du 5 au 7 août prochain en Angleterre.
Et c'est un joueur biélorusse qui s'annonce chez les Rapaces de Gap.
Il s'agit de l'attaquant Yegor Gennadinov, 26 ans à la fin du mois, originaire de Moscou. Il a d'abord évolué en MHL, la Ligue Junior de Russie, avant de rejoindre l'élite russe en KHL avec le Dynamo de Minsk en 2020. Il a été titré deux fois dans le championnat biélorusse. Un attaquant rapide, habile et avec un jeu physique, selon le staff gapensé.
Et puis Briançon, actuellement bien sûr la capitale du vélo.
Mais ce sera aussi dans quelques jours la capitale de l'escalade, avec le 33e mondial de la discipline qui s'y installera du 17 au 23 juillet. Mais les organisateurs manquent de petites mains, des bénévoles sont recherchés pour découvrir l'autre côté du mur. Des bonnes volontés seront les bienvenues pour des séances d'assurage ou derrière le comptoir pour le bar et la restauration. Une fiche est à remplir, elle est disponible sur alpe1.com.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com. Alpe 1.